C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Bonjour et bienvenue dans C'est pas du vent. Vous le savez, les pollutions et les risques qui menacent la santé, l'environnement et la biodiversité sont multiples, souvent minorés, parfois même ignorés. Alors pour alerter l'opinion publique, l'association Robin des Bois vient de publier un atlas de la France toxique, un inventaire inédit et glaçant à découvrir dans la deuxième partie de cette émission. Ils sont jeunes, curieux, ingénieux et bourrés d'idées. Ils viennent de se lancer dans un tour du monde en bateau de 3 ans pour découvrir des low-tech, des objets économes et non polluants issus du système D. Et quand on les entend, on aimerait quitter notre bureau et devenir comme eux, des nomades des mers. La mer, toujours, mais côté face de la pièce avec le thon albacore de l'océan Indien, menacé par les DCP, les dispositifs de concentration de poissons. Toutes les explications à suivre dans cette première partie. Et puis la mer encore et toujours avec Taba Naba, une exposition sur les arts des peuples de la mer, qui est aussi et surtout une invitation à changer nos habitudes.
C'est pas du vent sur RFI.
Le projet s'appelle Nomades des mers, une grande expédition d'exploration et de partage à la découverte des low-tech, des objets économes en énergie et non polluants. 3 ans autour du monde avec plusieurs étapes en Afrique. Bonjour Corentin Châtel-Perron.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur breton à la tête du projet Nomade des mers. Vous êtes en ce moment au Sénégal pour la construction d'une éolienne. On va y revenir. Mais tout d'abord, un petit mot sur ce projet un peu fou. Comment est-il né ?
Alors ce projet, il est né il y a 3 ans environ. J'ai fait une expédition dans le golfe du Bengale et j'ai essayé de vivre en autonomie. En fait, j'avais emporté 2 poules, une serre à l'avant pour faire pousser des patates, un dessalinisateur pour faire de l'eau douce, etc. Plein de petites techniques qu'on appelle des low-tech. Et j'ai essayé de vivre en autonomie pendant 6 mois et ça n'a pas du tout marché. Et en revenant avec Hélène et Pierre-Alain, on s'est renseigné pour voir tout ce qui existait dans le monde des low-tech et on s'est aperçu qu'il y avait plein d'inventions qui émergeaient un peu tout le temps autour du monde, qui venaient autant des pays riches que des pays pauvres, des villes ou des campagnes. Et on s'est dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire, c'est essayer de trouver toutes ces inventions-là et les partager au maximum de monde parce qu'il y a un potentiel énorme.
Alors justement, vous voyagez en ce moment et pour 3 ans sur un catamaran de 14 mètres de long. Il est très spécial ce catamaran. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
On a choisi un catamaran parce que c'est plus stable et à bord on a une serre d'une 30aine de mètres carrés. On a des plantes qui poussent en hydroponie, donc c'est hors sol, c'est-à-dire qu'elles poussent dans des billes d'argile et il y a un circuit d'eau dans lequel on met des engrais qui permettent de faire pousser. Ça divise par 10 la consommation d'eau. Donc ça c'est une des grandes places sur le bateau. Il y a un poulailler avec 4 poules pour avoir des œufs. Dans une des coques, il y a tout un endroit où il y a des insectes qui grandissent, c'est des vers de farine, on les mange pour avoir des protéines et eux mangent nos déchets. On a aussi un lombricompost qui digère les déchets organiques que ni les poules ni les vers mangent et qui font un engrais qu'on donne aux plantes. Et puis il y a un laboratoire pour tout ce qui est électricité, électronique et une paillasse, un petit laboratoire biologie.
Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que vous arrivez à être en autonomie totale comme vous le souhaitiez ?
Alors pour l'instant, on est encore un petit peu nul, je dirais, parce qu'on est parti il y a 2 mois et demi de France, et ça va durer 3 ans. Donc dans 3 ans, on sera vraiment fort et on sera autonome ou quasiment autonome. Mais aujourd'hui, là, on est un peu des amateurs, donc on apprend à chaque escale au fur et à mesure.
Alors pour le courant à bord, vous avez, je crois, 2 éoliennes, une hydrolienne, des panneaux solaires et un pédalier. Expliquez-nous tout ça, et est-ce que vous arrivez à avoir suffisamment de courant, du coup ?
Alors oui, finalement, pour l'électricité, c'est pas ce qui est le plus dur. Par rapport à l'autonomie en eau ou l'autonomie en nourriture, on se rend compte que c'est assez facile d'économiser et donc de pas avoir tant que ça d'énergie à produire. Un des sujets sur lesquels on a travaillé là à Dakar au Sénégal, c'est l'éolienne low-tech. Donc c'est une éolienne qui est faite à partir de moteurs de récupérés sur des imprimantes. Vous savez, les moteurs qui font avancer les feuilles ou qui déplacent la tête du scanner ou des choses comme ça. résultat, on les récupère. Et quand on les fait tourner, ces moteurs-là, ils génèrent de l'électricité. Donc on a mis des pales dessus. Et dans le vent, ça fournit assez d'électricité pour faire tourner, par exemple, nos moteurs pour nos cultures hydroponiques ou pour allumer des lumières ou recharger un portable, etc.
Mais justement, vous avez développé des low-tech dans chacun des pays dans lesquels vous allez aller. Pourquoi une éolienne au Sénégal ? Comment est venu ce choix ? Et est-ce que l'éolienne que vous avez fabriquée fonctionne correctement ?
Alors, pourquoi l'éolienne au Sénégal ? Alors, dès qu'on est arrivé, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de vent. Alors, il y a aussi beaucoup de soleil. Et ça, c'est une bonne chose parce que le solaire se développe pas mal au Sénégal. Il y a beaucoup de besoins en électricité. Il y a une grande partie de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Et pour recharger des téléphones portables ou pour la lumière le soir, ça pose problème. Et on s'est rendu compte que ça demandait des petites puissances. Ça ne demande pas forcément une grande surface de panneaux solaires ou une grande éolienne. Et donc, on s'est mis à travailler sur une éolienne très low cost qui coûte moins de 10 euros et qui peut être fabriquée avec des moyens très simples, en fait, même dans un village. Et on a réussi notre challenge parce que cette petite éolienne fonctionne, on en a fait plusieurs et puis on a rencontré plusieurs personnes qui étaient intéressées pour en faire un petit business et puis ça devrait se répandre dans les mois qui viennent, j'espère. En tout cas, nous, là, on travaille pour faire une vidéo tutoriel pour qu'ensuite, grâce à Internet, n'importe qui puisse la répliquer chez lui.
Est-ce que vous avez fait la même chose avec le désalinisateur solaire que vous avez mis au point au Maroc, votre étape précédente ?
Oui, au Maroc, on a fait donc un désalinisateur solaire. Ça transforme de l'eau de mer en eau douce grâce au soleil. Et on a fait une vidéo tutoriel qui sera très prochainement en ligne sur Internet, sur notre site Low-Tech Lab.
L'Afrique est bien représentée lors de cette première année de votre voyage, puisque vous irez prochainement au Cap-Vert, en Afrique du Sud, puis à Madagascar et aux Comores. Le continent africain, est-ce un bon laboratoire pour les low-tech, justement ?
Comme laboratoire des low-tech, c'est idéal. On s'en rend bien compte au Sénégal en ce moment, parce que ce qui différencie directement de la France, par exemple, c'est qu'à chaque coin de rue, on peut trouver un artisan, un menuisier, un soudeur, etc. Et donc, c'est hyper accessible de bricoler. Contrairement en France, où heureusement, il y a des Fab Labs qui commencent à naître, des ateliers partagés. Mais ici, c'est parfait pour prototyper, pour bricoler et pour assez peu cher. Et ensuite, le deuxième chose, c'est que c'est le royaume aussi de la récup. Et on peut, contrairement à la France, où on n'a pas accès aux déchetteries, aux décharges, il n'y a pas vraiment de circuit après la fin de vie des objets. Ici, on peut récupérer, comme je vous disais, pour l'éolienne, des moteurs d'imprimante, on peut récupérer des tas de choses. Et en plus, il y a une troisième point, c'est qu'il y a une ingéniosité super au Sénégal, et j'espère et je pense que ce sera pareil dans les autres pays.
L'Afrique, reine du système D. Merci infiniment, Corentin de Châtel-Perron. Je rappelle que vous êtes ingénieur breton et vous êtes à la tête du projet Nomade des Mers, donc une grande expédition d'exploration à la découverte des low-tech, des objets donc économes en énergie et non polluants. Merci beaucoup et bon vent à vous.
Merci à vous.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Vous avez sûrement entendu parler de la disparition progressive du thon rouge en Méditerranée en raison de la surpêche, mais une autre espèce de thon, le thon albacore, est également menacée dans l'océan Indien par les DCP, les dispositifs de concentration de poissons. Bonjour François Chartier.
Bonjour.
Vous êtes chargé de campagne océan chez Greenpeace. Vous revenez d'une expédition dans l'océan Indien à bord de l'Esperanza, l'un des bateaux de l'association. Alors déjà, que sont les DCP, ces dispositifs de concentration de poissons ?
Alors les DCP, en fait, ce sont des petits radeaux qui sont soit en bambou, soit en métal couvert de plastique, qui sont déployés par les thoniers industriels, ce qu'on appelle les thoniers seineurs, et ils sont déployés par centaines. Et en fait, le principe est assez simple. À partir du moment où vous avez un morceau de bois ou quoi que ce soit qui flotte dans l'eau, vous allez avoir du poisson qui va s'agréger autour. Et alors les pêcheurs ont très bien compris ça, et grâce à ces DCP, ils augmentent l'intensité des captures, ils augmentent la pression de pêche.
Mais pourquoi c'est une menace, selon Greenpeace ?
Les DCP ont plusieurs impacts environnementaux. C'est de par leur déploiement industriel et sans contrôle que finalement cette menace prend toute son ampleur. La première menace, c'est ce qu'on appelle les prises accessoires. Autour des DCP vont s'agréger des thons, ce que ciblent les thoniers, évidemment, mais aussi d'autres espèces, et en particulier des espèces vulnérables comme les requins.
Fameux requin soyeux, ça,
voilà,
par
le requin soyeux, notamment dans la région de l'océan Indien ou les pointes blanches. Et là, sur des espèces déjà sous une pression énorme et d'autres menaces, l'impact est extrêmement préoccupant. L'autre problème que posent les DCP, c'est directement sur la ressource en thon. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur le thon albacore, notamment. C'est qu'en fait, dans les DCP, on va prendre trop de juvéniles, c'est-à-dire du thon qui ne s'est pas encore reproduit. D'où l'état aggravé de la situation de l'albacore. Et enfin, un dernier élément, mais un grand nombre de ces DCP sont perdus, ou simplement pas récupérés par les thoniers, et ils finissent très souvent sur les récifs coralliens des îles. On en a trouvé autour des Seychelles, on a trouvé à Madagascar, et là il y a un impact direct, une pollution directe de ces écosystèmes hypersensibles que sont les récifs coralliens.
Mais pourtant, ces DCP sont reliés à une balise satellite pour les localiser, pour que les bateaux puissent aller les rechercher. Donc, comment est-ce que vous expliquez qu'il y en ait des milliers, hein, finalement, qui soient abandonnés ou qui disparaissent ?
Alors déjà, c'est par rapport à l'échelle de l'usage de ces DCP. Il y en a à peu près 20% qui sont perdus par an d'après l'industrie. Mais on estime, parce que les chiffres réels sont malheureusement pas connus, qu'il y en a au moins 20 000 de déployés par an juste autour des Seychelles. Donc ça fait déjà plusieurs milliers de DCP perdus, abandonnés, volés par d'autres thoniers, puis réabandonnés.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon Greenpeace, que chaque thonier déclare ses DCP, qu'ils soient obligatoirement récupérés en cas de perte? Qu'est-ce que vous préconisez?
Il n'y a évidemment pas une solution miracle, mais il y a toute une palette finalement de mesures de gestion qu'il faut mettre en œuvre. Aujourd'hui, concernant... Alors, il n'y a pas de limite de capture, il n'y a pas de quota, donc c'est déjà un premier élément. Concernant les DCP, il y a une limite à 550, ce qui finalement aujourd'hui permet aux thoniers de continuer à augmenter l'usage de cette pratique. Donc il faut évidemment encadrer le nombre de DCP, mais ça dépend du nombre de navires, donc fixer un chiffre comme ça arbitrairement n'aurait pas de sens. Il faut par exemple réduire le nombre de ce qu'on appelle les navires de soutien, voire les interdire, ces navires qui ne servent que à déployer des DCP. Il y a des pistes qui viseraient à fermer la pêche pendant plusieurs mois, donc pour réduire la pression de pêche. Et évidemment, encadrer le nombre de DCP. Et puis, il faut, comme vous le disiez, des données scientifiques claires. Aujourd'hui, on ne connaît pas le nombre de DCP déployés, on ne connaît pas les captures exactes, ce qui rend la gestion durable de la ressource extrêmement difficile.
Est-ce qu'on peut faire appliquer le principe du pollueur-payeur ou est-ce que ça sera compliqué ?
C'est également, pour ce qui est des DCP perdus, quelque chose qui devrait être fait, c'est-à-dire que ce serait à la charge des armateurs de prendre en compte le coût environnemental, le coût social de ces DCP qui sont perdus, qui sont échoués sur les récifs coralliens.
Que doivent faire les citoyens face à cela ? Tout simplement ne plus acheter du thon en boîte de la marque Petit Navire, pour ne citer qu'elle ?
Alors, c'est vrai que là, on parlait des mesures de gestion politique, celles qui se discutent par exemple à la commission thonnière de l'océan Indien qui se réunit à La Réunion là, très prochainement. Mais il y a aussi un rôle à jouer en tant que citoyen et en tant que consommateur. Ce qu'on demande aux marques, c'est d'assumer leurs responsabilités en tant qu'acheteurs et eux de n'acheter que du thon pêché sans DCP. Donc on peut regarder sur les boîtes, il y a aujourd'hui malheureusement peu de thon durable dans les étalages des supermarchés. Et effectivement, on mentionnait Petit Navire que nous ciblons, encore moins chez Petit Navire que chez d'autres malheureusement. Donc il faut privilégier du thon à la canne ou du thon pêché sans DCP. C'est un moyen de faire pression sur une industrie qui a besoin de prendre des mesures durables.
Eh bien merci infiniment François Chartier. Je rappelle que vous êtes chargé de campagne océan chez Greenpeace. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Tabanaba, c'est le nom d'une chanson enfantine traditionnelle des indigènes du détroit de Torres, des îles situées près de la côte nord de l'Australie. Une chanson qui évoque notamment les plaisirs de la pêche sur les récifs. Mais Tabanaba, c'est également le nom d'une exposition sur les arts des peuples de la mer au musée océanographique de Monaco. Bonjour Robert Calcagno.
Oui, bonjour Igor Strauss.
Vous êtes directeur général de l'Institut océanographique. L'exposition Tabanaba regroupe les œuvres d'une cinquantaine d'artistes aborigènes et océaniens avec pour thème la protection des océans. Concrètement, comment ça se traduit ? Comment les artistes évoquent cette thématique ?
c'est très important de faire appel à des artistes pour évoquer cette problématique, parce qu'à l'origine, le musée océanographique de Monaco est un musée scientifique et nous faisons passer les informations sur la connaissance et la nécessaire protection des océans de façon rationnelle, presque scientifique. Mais ce n'est pas suffisant vraiment pour convaincre les personnes. Et depuis l'origine, le fondateur du musée océanographique de Monaco, le prince Albert Ier, a vraiment souhaité que l'art soit appelé pour transmettre ses émotions et que nous puissions également parler au cœur de nos visiteurs. Et c'est dans ce contexte que nous avons invité donc des artistes aborigènes et des îles du détroit de Torres à s'exprimer. Alors c'est fascinant parce qu'en plus, ces artistes qui sont issus de communautés indigènes ont une capacité d'exprimer leurs émotions en utilisant des médias différents des nôtres, et au bout d'un moment, cela nous touche et on comprend à la fois les relations vraiment très particulières qui existent entre ces artistes et leur environnement, et ceci depuis des milliers d'années.
Mais alors justement, cette exposition parle surtout du rapport de l'homme à son environnement. Quel est le rapport des aborigènes et des océaniens avec l'océan ?
Écoutez, il est très important. Imaginez-vous être dans une communauté d'aborigènes de 50, 60 personnes qui vit sur une petite île dans le détroit de Torres entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'océan, c'est le centre de votre vie. L'océan apporte bien sûr la nourriture, mais il apporte aussi les moyens de construire leur habitation. Il a porte aussi, et c'est très important, le transport, les possibilités d'échange entre les différentes îles. Donc depuis des milliers d'années, les aborigènes vivent de l'océan. Mais il ne faut pas voir cette relation que dans un sens, c'est-à-dire les aborigènes exploitent l'océan. Non, les aborigènes vivent avec. C'est-à-dire qu'il y a une vraie relation d'équilibre, de respect, et ces hommes qui habitent donc dans les îles du détroit de Torres prennent soin également de l'océan, se préoccupent de la durabilité de l'océan, et par exemple pour la pêche, ils ont mis en place un système traditionnel qu'on pourrait qualifier de jachère, où ils créent ce que nous appelons aujourd'hui des aires marines protégées, où pendant plusieurs années ils laissent la vie locale, les poissons se reproduire, se développer, et ils vont les pêcher ailleurs. Et ils font ça systématiquement avec un vrai savoir-faire ancestral qui rejoint aujourd'hui les toutes dernières découvertes de l'Occident en matière de gestion de l'océan.
Alors c'est une exposition en trois volets avec des œuvres extrêmement variées, des peintures, des photos. Quels sont ces trois volets justement ? Expliquez-nous un peu.
Alors c'est ça qui est un peu extraordinaire dans cette exposition. Vous connaissez très certainement l'art aborigène qu'on pourrait presque qualifié de traditionnel, les peintures avec des points utilisant de la peinture acrylique, c'est très esthétique, c'est très décoratif. C'est une époque de la peinture aborigène, parce qu'il faut savoir qu'il y a 100 ans, bien sûr, les aborigènes ne peignaient pas comme ça, c'était plutôt de la peinture dans des grottes, sur des falaises, voire sur des écorces qui aujourd'hui ont disparu. Donc il y a eu une période, et nous allons trouver effectivement de très belles pièces de peinture de niveau muséal de cette peinture traditionnelle. Le deuxième volet, c'est l'expression contemporaine. Comme un peu un artiste contemporain occidental, ils utilisent de nouveaux moyens, de nouveaux médias. Le troisième point, c'est en fait des objets de la vie quotidienne, surtout d'ailleurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou de Vanuatu, des îles Salomon, et là on trouve des pagaies, on trouve des pirogues, on trouve des moyens de troc, et ça c'est dans des endroits où l'art et la vie quotidienne sont constamment mélangés. D'ailleurs quand on leur parle d'art, des fois ils ne comprennent pas parce que pour eux tout est art en quelque sorte, et tout est également vie quotidienne. quotidienne et besoin de vivre et de survivre.
Eh bien écoutez, merci infiniment Robert Calcagno pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut océanographique. Ainsi s'achève la première partie de l'émission. Restez avec nous, dans un peu plus de 3 minutes, nous parlerons de pollution en France avec les auteurs de l'Atlas de la France toxique. C'est pas du vent ? À suivre.